Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Bedinda Musuma.
Le processus politique est la solution à la guerre qui dure depuis 30 ans dans l'est de la RDC. Déclaration hier à Beni de la représentante spéciale adjointe chargée des opérations et de la protection civile, Viviane Van de Perre clôturait sa visite de 3 jours dans le Grand Nord Kivu. La Cour des comptes a initié depuis quelques mois un contrôle d'audit auprès de certains établissements universitaires de la RDC. Objectif, sensibiliser leurs gestionnaires sur les bonnes manières de gestion de leurs entités, soit la discipline budgétaire. Et puis, journée mondiale du gorille, c'était hier 24 septembre. À cette occasion, le directeur des programmes du Fonds Fossi en RDC appelle à une mobilisation en faveur de la conservation de ces grands singes. Urbain Ngobobo est l'invité de ce journal. À tous et à toutes, bonjour. La population de l'Est de la RDC a tant souffert. La crise actuelle nécessite une réponse immédiate par le processus de négociation politique. Déclaration hier à Beni de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en charge des opérations et de la protection civile. Viviane Van de Perre l'a dit devant la presse au terme de sa visite de 3 jours dans le Grand Nord Kivu. La chef adjointe de la MONUSCO estime que seul le processus politique est la solution à cette guerre qui dure depuis 30 ans dans le pays. Viviane Van de Perre est au micro de Marc Marofimbo.
La guerre ne doit pas être la solution en aucun pays. Il y a des autres mécanismes, des autres processus. Ça prend du temps. C'est compliqué. L'Est du Congo, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'histoire, beaucoup de post-colonialisme et tout ça. Mais c'est possible de mettre fin à la guerre. À travers une solution militaire, ça met la population en danger. Beaucoup de gens souffrent, les femmes souffrent, les enfants souffrent, ils sont innocents. Ça doit se passer par le processus politique. Et l'ONU, la MONUSCO, soutient le processus politique. On ne gère pas le processus nous-mêmes, c'est le Qatar, l'Union africaine, les États-Unis, mais on soutient et on est prêt de soutenir le gouvernement à trouver une solution pour mettre fin à cette situation-là de 30 ans.
Notez qu'après Beni au Nord Kivu, la chef adjointe de la MONUSCO s'est rendue hier après-midi à Bunia en Ituri pour une visite de 3 jours dans cette province en proie également à des violences armées depuis des années. Pendant ce temps, dans le territoire de Bafouassine des provinces de la Tchopo, un mouvement de la population est signalé dans le secteur de Piengue. La cause, une incursion d'hommes armés survenue il y a 3 jours, identifiée aux rebelles ADF. Face à la psychose qui s'est installée dans la région, l'administrateur du territoire, Willy Simbié, appelle la population au calme. Il assure que les autorités compétentes ont déjà pris des mesures pour neutraliser ces assaillants et rétablir la sécurité. Jacques Moukonkole nous en dit plus.
L'alerte est donnée par la société civile locale. Selon cette structure citoyenne, les éléments identifiés aux ADF, une dizaine, bien armés, ont fait incursion dans 2 villages, à savoir Bokolai et Niassi, au sud-est, à une journée de marche de Bafouassine des centres. Au vu de ces personnes suspectes, la population a déserté ces villages. Les uns se sont retranchés dans la forêt, tandis que d'autres prennent la direction de Bafouassine des centres. L'administrateur du territoire, bien que se trouvant en mission vers la limite avec le territoire voisin de Wamba dans les Hauts-Tolé, dit suivre la situation de près. Willy Simbié déclare que la 31e région militaire à laquelle dépend le bataillon FRDC de son entité a reçu l'ordre de se déployer afin de boucher toutes les voies de sortie pour contenir ces rebelles. Ainsi, il demande à la population de rester calme.
Qu'ils soient tranquilles, nos hommes sont en train de patrouiller, ils vont les traquer parce que nous avons suffisamment de militaires basés à Odengue et l'autre en Bafouassine centre.
Signalons que ces rebelles de l'ADF sont venus du Nord Kivu, qui fait frontière avec la Tchopo à partir du secteur d'Opiengue. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Le caucus des députés nationaux de Maïndombe, préoccupé par la multiplicité des conflits communautaires dans cette province, inquiétude exprimée mardi à Kinshasa auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani a reçu ses élus à l'issue de sa mission d'itinérance dans cette région en vue d'instaurer une nouvelle politique de gouvernance sécuritaire et organiser des consultations populaires à travers un forum de paix. On écoute à ce sujet Séverin Bamani, président du caucus des députés de Maïndombe, propos recueillis par Grâce Hamzati.
Vous savez que Maïndombe est caractérisé par un certain nombre de conflits. Vous avez les massacres des Yumbi, vous avez eu les problèmes qu'il y a eu à Bolobo, vous avez les problèmes Mobondo et tout ça. Son Excellence le vice-premier ministre a une idée. Une idée dans un premier temps d'abord de réunir le conseil de sécurité élargi pour arriver, c'est un peu de creuser ces problèmes, de chercher à trouver des solutions, mais également aussi d'organiser un forum de paix, un forum communautaire. Vous savez, les problèmes se passent chez nous par moments sans qu'on arrive à chercher à trouver de solutions et qu'on a l'impression c'est comme si les populations sont un peu abandonnées à leur triste sort. Et que le vice-premier ministre ait pensé à cela, c'est une bonne chose. Parce qu'au fait, en réalité, ce qui se passe dans le Maïndombe, ce n'est pas une rébellion qui est venue de l'extérieur. C'est nous-mêmes, entre nous, fils du Maïndombe, nous nous entretuons, nous nous battons entre nous. Et que dans le cadre de sa gestion, qu'il estime qu'il est temps pour essayer un peu de pénétrer ces problèmes, quelles sont les causes réelles qui sont à l'origine de ces problèmes. Il y en a qui parlent de causes foncières, d'autres des causes liées à la gouvernance coutumière. Arriver à comprendre tous ces problèmes-là pour une solution durable, il faut qu'on puisse restaurer l'autorité de l'État.
Dans l'actualité aussi, je vous l'ai dit dans les titres, la Cour des comptes veut désormais s'imprégner de la gestion des fonds reçus du gouvernement par les établissements universitaires en RDC. Pour la première fois, elle vient de lancer des missions d'audit à la Haute École de Commerce, ex-IEC, à l'Université de Kinshasa et aux cliniques universitaires. Objectif poursuivi, contrôler ces établissements et sensibiliser leurs gestionnaires sur les bonnes manières de gestion de leurs entités, soit la discipline budgétaire. Un rapport sera adressé à l'issue de ce contrôle, c'est ce que nous dit Jeff Ngoy Mulonda.
Comme ce contrôle n'était pas un contrôle de routine, les textes, même les lois en rapport avec la Cour des comptes sont des normes quelque peu ignorées. Parce que beaucoup de gestionnaires commencent à partir d'ici et si l'INIKIN est bien sensibilisé pour une bonne gestion, je pense que la suite de la République pourra être impactée. Et ce que nous demandons au premier président, c'est qu'aujourd'hui c'est fait, mais nous avons voulu que ça se passe dans un cadre un peu plus élaboré. Nous avons sollicité un atelier résidentiel.
Bien entendu. J'ai promis que la Cour des comptes va s'organiser, va prendre toutes les dispositions pour organiser prochainement un atelier de sensibilisation au bénéfice de l'Université de Kinshasa.
Nous allons revenir sur cet élément dans nos prochaines éditions. En attendant, rendons-nous à Bounia. Désormais, la justice militaire peut enregistrer les identités des prévenus et les garder dans des archives, non plus sous format papier, mais numérique. Cela est rendu possible grâce aux ordinateurs et imprimantes que la MONUSCO leur a remis hier mercredi. Ce don qui va améliorer le travail de la justice militaire est salué par les bénéficiaires. Reportage de Jean-Claude Loki.
Il s'agit notamment d'ordinateurs et d'imprimates qui permettront de numériser les dossiers, jugements rendus ainsi que les pièces à conviction. Objectif, sécuriser les données judiciaires et limiter les pertes de dossiers. Un appui jugé indispensable par le colonel Joseph Makelele, auditeur supérieur.
Avec les événements qui se passent souvent dans une contrée où il est placé sous état de siège, il y a des mouvements rebelles et nous l'avons connu à Goma à deux reprises. On a eu à perdre tout ce qu'il y avait comme dossier. Finalement, quand on perd les dossiers, il est difficile de continuer les poursuites engagées. Et c'est pour cela que la numérisation permet à ce qu'on puisse récupérer ce qui était déjà digitalisé, gardé. Là, nous pourrons ainsi continuer avec ce que nous avons comme élément de dossier. Ça, c'est de un. De deux, également, il y a soustraction des pièces, des fois. On peut conserver, ne serait-ce, les documents qui ont été sauvegardés et les présenter pour, comme preuve que ça a été déjà remis au niveau de la justice.
En plus de ce don, une formation des greffiers et autres acteurs judiciaires est prévue afin de les initier à l'utilisation de ces outils numériques. Selon la MONUSCO, des dotations similaires seront bientôt effectuées au profit d'autres juridictions, notamment le tribunal et l'auditorat militaire de garnison de Bounia. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile Radio Kapi.
Direction la province du Maniema. Elle dispose désormais de sa stratégie provinciale sur l'agroécologie, c'est-à-dire une agriculture qui respecte l'environnement. Les petits exploitants agricoles sont les plus concernés par cette initiative. Selon le point focal de l'ONG Congo Bassin Conservation Society, un membre de la société civile environnementale, cette stratégie provinciale intègre l'agroécologie comme une nouvelle approche de résilience qui s'adapte au changement climatique. Explication Florence Kizalunga.
La stratégie provinciale sur l'agroécologie est focalisée sur quatre axes stratégiques tels qu'explique ici l'expert Paulin Saïl.
Dans cette stratégie axée sur plusieurs aspects, notamment la formation sur les savoirs locaux, les savoirs endogènes, la gouvernance agroécologique, mais aussi d'autres aspects tels que la production durable des denrées alimentaires qui sont basées sur les pratiques qui ne détruisent pas l'environnement, mais aussi la protection de la biodiversité.
Avec la validation de cette stratégie, le peuple autochtone espère déjà à la sécurisation de leurs forêts. Zaina Rehema Clarisse.
Étant donné que nos forêts sont menacées, nous trouvons qu'avec la CBSS, ils sont là comme nos garde-fous par rapport à cette menace qu'on avait vis-à-vis de nos forêts.
Cette stratégie qui allie agriculture et protection de l'environnement est considérée par le gouvernement provincial comme un modèle. Hassani Somoué, ministre de l'Agriculture.
La stratégie c'est pour la province. Pour moi, je vois comme une base de modèle pour la province du Maniema. Pour répondre aux besoins majeurs ou aux aspirations de la communauté rurale. Dans le but de protéger nos forêts afin de lutter contre les réchauffements climatiques et aux effets de serre.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, une grogne sociale a été observée hier mercredi au collège Saint-Charles Luanga, situé dans la commune de Barumbu. Les élèves dénoncent les mauvaises conditions d'apprentissage causées par les eaux usées provenant des parcelles riveraines et qui envahissent leur salle de classe. Le préfet de l'établissement craint que cette situation ne retarde les élèves par rapport au calendrier scolaire. Le bourgmestre de la commune promet des mesures drastiques afin de permettre la poursuite normale des enseignements. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ces eaux usées, issues des installations hygiéniques des parcelles voisines, dégagent des odeurs nauséabondes, rendant difficile le suivi des cours pour des élèves du collège Saint-Charles-Luanga. L'un d'eux, élève de la quatrième année des humanités commerciales et gestion, interpelle les autorités scolaires et politiques pour une résolution rapide de cette situation. Ogui Mutombo.
L'eau des douches de nos voisins entre dans nos salles de classe et ça crée des odeurs. C'est pourquoi nous demandons de l'aide. Nous devons étudier dans de bonnes conditions quand même.
Les préfets du collège Saint-Charles-Luanga redoutent que la perturbation des cours ait un impact négatif sur le respect du calendrier scolaire. Ils déplorent cependant que les enfants soient exposés à des risques sanitaires en raison des odeurs nauséabondes.
Il n'y a pas moyen de poursuivre les cours puisque les salles de classe sont remplies des eaux usées provenant des toilettes. Nous implorons les gouverneurs qu'ils fassent quelque chose pour ces enfants.
De son côté, le bourgmestre de la commune de Barumbu annonce des mesures urgentes pour permettre aux élèves du collège Saint-Charles-Luanga de suivre les cours dans les meilleures conditions.
Nous allons fermer tout ce qui est comme tuyaux qui verse de l'eau au niveau de l'école.
Selon les responsables de cette municipalité, les parcelles voisines d'où proviennent ces eaux usées sont pour la plupart construites sur un terrain non édificandi et non urbanisé.
Promouvoir l'inclusion sociale et professionnelle des jeunes, des personnes en situation de handicap et des communautés marginalisées, c'est l'objectif du déjeuner d'affaires organisé mardi à Kinshasa par l'ONG QSO International avec le soutien de l'Agence suédoise de coopération et d'affaires mondiales dans le cadre du projet Talents Pluriels. Cette rencontre a permis de mettre en lumière des talents cachés, comme nous le dit Enoch Katumbi dans ce reportage.
Près de 170 jeunes et une centaine d'invités, on prépare à cette cérémonie marquante. À l'occasion, 160 certificats de formation en entrepreneuriat ont été remis et 22 500 dollars ont été alloués pour soutenir 24 projets portés par des jeunes congolais. Pour le représentant de l'ambassade du Canada, partenaire de ce projet, ces résultats vont bien au-delà des chiffres.
Ces résultats ne sont pas des chiffres, mais ce sont des trajectoires de vie transformées, des barrières sociales brisées, des talents révélés, mais bien plus. Ces résultats traduisent une approche intégrée qui combine inclusion sociale, autonomisation économique des femmes et lutte contre le chômage chez les jeunes.
Une satisfaction également exprimée par Richine Masengo, représentante de QSO International en RDC.
Très très satisfaite parce que nous nous sommes donné comme objectif de pouvoir former 4480 jeunes. Mais nous avons dépassé parce que nous avons formé plus de 6000 jeunes.
Les bénéficiaires, eux, n'ont pas caché leur gratitude.
C'est un grand honneur au nom de mes collègues entrepreneurs et bénéficiaires du projet Talent Pluriel. Enfin, de vous adresser nos vifs remerciements. Merci d'avoir cru en nous et merci de nous avoir tenu la main pour que nous devenions en notre tour des acteurs de changement.
La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive.
Actualité internationale. Nous sommes au Malawi. Peter Mutharika, chef du Parti démocratique progressiste, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 16 septembre 2025, annonce faite hier par la Commission électorale du Malawi. L'ancien président a obtenu un large avantage sur le président sortant, Lazarus Chakwera, soit 57% des voix contre 33%. Chakwera a immédiatement reconnu sa défaite plus tôt dans la journée. Cette annonce marque un retour politique majeur pour Mutharika, âgé de 85 ans. Il a été président de 2014 à 2020, date à laquelle il avait aussi été largement battu par Lazarus Chakwera.
L'invité.
Le monde a célébré hier, 24 septembre, la journée mondiale du gorille au nord et au sud Kivu. Les parcs nationaux et réserves des communautés locales hébergent la seule population des gorilles ainsi qu'une grande population des gorilles de montagne. En raison des conflits et de l'insécurité qui y règnent dans la région, ces aires protégées ainsi que ces deux sous-espèces de gorilles sont de plus en plus menacées. Pour en parler, nous recevons le directeur des programmes du Fonds Fossé en RDC, Urbain Gobobo, est avec Bernard Nyangi.
Monsieur Urbain Gobobo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des gorilles. Quelle importance revêt pour vous cette journée?
Cette journée revêt une importance très capitale parce que c'est la commémoration des gorilles. Et les gorilles d'abord, qui est notre proche cousin, que nous devons toujours essayer de valoriser de temps en temps. C'est pourquoi il lui a été dédié cette journée. Et parce que les gorilles jouent un grand rôle dans notre vie, c'est pour nous un moment de réflexion, c'est pour nous un moment de se dire est-ce que réellement nous sommes en train de remplir notre mission qui a été donnée par le bon Dieu, de bien gérer et la biodiversité qui a été mise à notre disposition, quel est l'état des gorilles. Bien sûr, il y a des avancées ça et là, mais du côté de Congo, et le tableau reste toujours sombre.
Et comment se présente effectivement ce tableau?
Il y a beaucoup d'inquiétudes du fait que, comme vous le savez, nous avons les gorilles des montagnes, nous avons les gorilles des grauers. Il était aussi rapporté qu'il existerait des gorilles des plaines de l'Ouest dans les parties Congo central, mais il faut encore des inventaires pour essayer un peu de confirmer. Mais s'il faut parler aujourd'hui, les gorilles des montagnes, on les retrouve ici dans le parc national de Virunga. Et vous savez, depuis un temps, cette zone est le théâtre des affrontements, des guerres. À un certain moment même, les pisteurs ne pouvaient pas aller remplir leur travail pour garantir la sécurité et la protection de cette sous-espèce. Pire encore, c'est du côté des gorilles des grauers, qui est endémique en République démocratique du Congo. On ne peut que les retrouver en République démocratique du Congo in situ. Et c'est dans sa partie est qui accroît aussi sa vulnérabilité. Parce que pour les autres, quand tu as un problème d'insécurité dans un pays, ils peuvent traverser et aller trouver refuge dans un autre. Ce qui est contraire pour les gorilles des grauers chez nous. Et malheureusement, leur zone de distribution, c'est la zone qui est toujours théâtre des affrontements. Parce que cette zone part des forêts du Tombo et ça va jusqu'à Tchabirimo. Mais déjà là, comme vous le savez, cette partie est vive dans l'incertitude totale. Dans les Kaouzi-Biega, où on retrouve le peu des gorilles, des graouers habitués, où on organisait le tourisme, le Kaouzi est en train de connaître un sérieux problème de déforestation. La forêt est occupée par des hommes que l'on ne sait pas bien identifier. Les gardes ne sont pas à mesure de faire leur travail. Et donc, cette espèce est dans une situation critique. C'est l'endroit, par exemple, dans l'Nkuba Conservation Area, qui est une zone de plus de 2400 km², où les gardes suivent 5 groupes de gorilles de Grauer. Récemment, Igalika, le centre, est tombé entre les mains de la rébellion. Et bien, cela a poussé que les communautés ont quitté leurs villages tout au long des routes principales pour aller se réfugier dans les forêts, et spécialement dans les Kuban Conservation Area. Mais c'est aussi une opportunité pour féliciter et remercier cette communauté. Et ça nous donne pour nous une lueur d'espoir. Parce que quand la communauté s'est déplacée, la jeunesse de cette communauté d'Nkuba et des villages environnants et se sont érigés vraiment en bons protecteurs. Ils sont restés au village pour protéger les installations de la Diane Fossé Gorilla Fund. Et c'est là qu'ils sont partis dans la forêt, spécialement composée de vieillards, des enfants et des femmes. Ils sont partis s'installer dans des zones qui ne sont pas des zones dépistage des gorilles, parce qu'ils le savent, parce que ils font des patrouilles communautaires, ils savent les zones névralgiques des gorilles.
À combien estimez-vous actuellement la population ou l'effectif de la population des deux sous-espèces de gorilles, le gorille de montagne et aussi le gorille de Grauer?
On devrait aussi procéder aux inventaires pour mettre à jour les données existantes. Mais pour les gorilles de Grauer, on ne peut que se référer d'abord aux données et les inventaires qui ont eu lieu en 2015. C'était estimé encore à 2800, mais nous pensons que le nombre a augmenté. Et du côté de Virunga, là, ce qui est très important, ce qui est bon, malgré la guerre, c'est la seule sous-espèce où le nombre continuait à augmenter. Et là, c'est ce qui est intéressant pour nous.
Monsieur Urbain Gobobo, je rappelle que vous êtes le directeur pays de Diane Fossé Gorilla Fund International. Merci.
Oui, c'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes, pour votre intérêt envers les gorilles.
Notre invité répondait aux questions de Bernard Nyangui. C'est la fin de ce journal, mis en onde par Jean-Claude Siala. Merci de rester des nôtres.